Bonsoir à toutes et à tous pour cette rencontre en compagnie de Laurent Binet. Et si Christophe Colomb, après son arrivée à Cuba, n'était jamais rentré en Europe? Et si au XVIe siècle, l'histoire s'était passée autrement, si les Incas avaient traversé l'Atlantique et envahi l'Espagne? Et si Atahualpa avait renversé Charles Quint dans une Europe minée par les guerres, la faim et les conflits religieux? C'est le récit d'une mondialisation inversée, d'un renversement historique, ludique, divertissant, romanesque, souvent épique, et c'est l'un des romans les plus réjouissants de cette rentrée littéraire. Ce livre, c'est Civilisation avec un Z et un S, paru donc aux éditions Grasset, troisième roman de Laurent Binet, que nous recevons ce soir. Laurent Binet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes auteur de HHHH, un roman autour de la tentative d'assassinat de Reinhard Heydrich, le cerveau de la solution finale, par deux résistants tchèques, livre qui a reçu le Goncourt du premier roman en 2010. 5 ans plus tard sortait La septième fonction du langage, qui a reçu le prix Interallié, mélangeant sémiologie et enquête policière sur fond d'assassinat de Roland Barthes dans le milieu intellectuel parisien des années 80. Alors, commençons, si vous voulez bien, par ce titre. Pourquoi civilisation avec un Z et pourquoi civilisation avec un S au pluriel?
Eh bien, en fait, c'est à la fois pour me faire une référence et pour me démarquer d'un jeu vidéo auquel j'ai joué quand j'étais plus jeune, qui s'appelait donc Civilisation, écrit à l'anglaise avec un Z, mais Civilisation au singulier, qui consistait à, consistait à développer sa propre société à partir, qui commençait à la préhistoire, et puis, on commençait avec quelques petits pionniers, et puis progressivement, on développait une société, une ville, et puis un empire, en essayant de gérer les différentes civilisations qui nous environnaient. Et je me suis dit que finalement, ce projet ressemblait un petit peu à la situation dans laquelle j'ai mis mes Incas, qui débarquent donc en 1531 à Lisbonne et qui se retrouvent avec dans cette situation de découvrir un monde inconnu. Sauf qu'à la différence du jeu, le monde inconnu n'est pas vierge, il est habité par les Européens. Et donc j'ai mis le S pour me démarquer du jeu. Et puis certains commentateurs, vous savez, c'est toujours une sensation assez agréable quand un critique fait une remarque à laquelle vous n'avez jamais pensé, mais que vous trouvez l'idée excellente, et vous vous dites « Ah bah oui, bien sûr !» Vous savez que c'est Paul Valéry qui avait assisté à une conférence sur le cimetière marin, l'un de ses poèmes les plus célèbres, à la Sorbonne, je crois, et en sortant, il avait dit « J'aurais jamais trouvé tout ça !» Et donc, plusieurs personnes, à vrai dire, m'ont fait la remarque que ce S et ce Z constituent le titre d'un des livres les plus célèbres de Roland Barthes, sur lequel j'avais écrit mon livre précédent, SZ. Et donc, inconsciemment, je suppose quand même que j'ai été mu par quelque chose, ça ne peut pas être qu'un hasard, j'ai transcrit la trace de mon livre précédent et de l'admiration que je porte à Roland Barthes. Et en plus, ce que j'aime dans Roland Barthes, contrairement à la majorité des gens, c'est pas les fragments d'un discours amoureux ou le dernier Barthes très autobiographique, enfin, ce qui est pas mal aussi, mais j'adore cette période structuraliste pure et dure, symbolisée donc par ce livre qui s'appelle SZ. Donc je suis content qu'il y ait cet hommage dans le titre, implicite, inconscient, enfin en tout cas auquel j'avais pas pensé, mais qui manifestement est là.
Alors, vous jouiez déjà avec l'histoire dans vos précédents ouvrages. Là, ce dernier livre est une uchronie, et je voulais savoir si c'était quelque chose, un genre littéraire que vous affectionnez particulièrement, qui est très présent dans les comics américains. Ouais, il y a une série chez Marvel qui s'appelle les What If.
Exactement, bah, ça vient de là.
Ouais. D'accord.
Ouais, c'est quand j'étais petit, je lisais mes Strange, mes histoires de super-héros, et il y avait cette série qui s'appelait What If, et donc qui était une série contrefactuel, mais en fait pas tout à fait contrefactuel, parce que comment vous dire, pour vous donner un exemple, c'était et si Peter Parker avait arrêté l'assassin de son oncle avait empêché le meurtre de son oncle, ou et si le Phénix n'était pas mort dans les X-Men, enfin ce type de choses. Sauf que donc là c'est une critique récente justement que je viens de lire sur le site AOC, qui ne parle pas de contrefactuel dans ce cas-là, mais de contre-fictionnel. Parce que là, c'était quand même très fort, parce que c'était, il changeait une histoire, mais une histoire qui était une fiction à la base. Mais enfin, bon, pour le lecteur, finalement, ça ne changeait rien, puisque le pack de lecture étant ce qu'il est, quand on lit une fiction, on la lit comme si c'était une... Enfin, disons, le temps de la lecture, on joue le jeu de... on fait comme si c'était une histoire vraie, c'est pour ça qu'on ressent des émotions. Et donc, bref, c'est à cette époque-là, j'aimais beaucoup, en effet, cette série des essais, des what if. C'est de là probablement que j'ai eu, est née cette espèce de fantasme de refaire l'histoire. Par la suite, je me souviens que dans HHHH, j'avais écrit cette phrase qui a l'air en contradiction complète avec ce projet, qui était l'histoire est la seule véritable tragédie parce qu'on ne peut pas la réécrire. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire à l'époque ? En fait, il fallait comprendre réécrire au sens métaphorique. C'est-à-dire qu'évidemment, on peut la réécrire autant qu'on veut, mais on ne la changera jamais. Ce qui est fait est fait, ce qui est advenu est advenu, et pour le meilleur et pour le pire. Et donc, si vous voulez, le projet de l'Uchronie, à mon avis, est toujours associé à une forme de... relève du fantasme, et... peut-être pas toujours, mais en tout cas dans mon cas, est associé à une forme de mélancolie. C'est-à-dire que je peux réécrire l'histoire autant que je veux, je peux refaire, inverser le cours des choses autant que je veux, je peux donner cette revanche aux vaincus, donc en l'occurrence la possibilité aux Indiens de prendre leur revanche sur les Européens autant que je veux. En fait, ça ne changera rien pour le véritable Atahualpa, ça ne changera rien pour tous ceux qui sont morts et pour ce qui s'est et pour l'histoire qui s'est produite. Mais si vous voulez, c'est l'exercice, c'est le fantasme est un droit imprescriptible de l'être humain, et donc c'est une forme de fantasme que j'assouvis, mais un truc un peu spécial, si vous voulez, un fantasme au futur antérieur, comme certains épisodes d'ailleurs des X-Men, mais au conditionnel passé. Et ça aurait pu se passer comme ça. Et le conditionnel passé, c'est le temps des regrets, en fait.
Quel a été le point de départ de cet ouvrage et pourquoi le 16e siècle et les Incas ?
Alors, comme souvent, c'est les hasards de l'existence qui prévalent à peu près tout ce qui nous arrive, et donc aussi à l'écriture des livres. J'avais été invité au Salon du Livre de Lima, et ça m'amuse de repenser à quoi tient l'écriture d'un livre. Ça m'amuse de repenser que... j'étais pas sûr d'y aller, et c'est le directeur de Grasset qui m'avait dit « Mais vas-y, tu n'auras pas souvent l'occasion dans ta vie d'aller au Pérou. » Donc j'avais dit oui. J'avais accepté donc l'invitation à ce Salon du Livre à Lima. Et puis j'étais allé voir, au même moment, à Paris, au Quai Branly, au musée du Quai Branly, il y avait une très belle exposition qui s'appelait « L'Inca et le Conquistador ». Et donc j'y étais allé, sachant que j'allais partir à Lima pour me renseigner un peu sur une période... je connaissais un peu des trucs du XVIe siècle, mais rien sur la conquête, en fait. Je connaissais deux noms, Pizarro et Cortés. Et là, je découvrais l'incroyable épopée de Pizarro, l'incroyable histoire de la conquête du Pérou, et tout de suite, j'ai été complètement subjugué et fasciné. Et puis ensuite, je suis allé au Pérou, et donc je suis allé voir des... je me suis intéressé, quoi, disons, enfin, comme un touriste, hein. J'ai visité... des musées précolombiens, enfin, disons, un intérêt est né chez moi pour une période dont, enfin, un épisode de l'histoire dont j'ignorais tout. Et en rentrant, comme j'en parlais à tout le monde de ce voyage, de ces musées, de cette histoire de Pizarro, mon demi-frère m'a mis dans les mains un livre de Jared Diamond, qui est très à la mode en ce moment parce qu'il a fait un livre qui s'appelle Effondrement. Alors bon, évidemment, c'est le sujet là qui nous préoccupe tous. Mais avant ça, il avait fait un autre livre qui s'appelait Guns, Germs and Steel, qui a été traduit en français par un titre moins accrocheur, mais néanmoins plus parlant, de l'inégalité parmi les sociétés. Et il se pose la question, pourquoi est-ce que telle société en a dominé telle autre ? Et notamment, il y a un chapitre qui est consacré à cette histoire de Pizarro. Pourquoi ? Il dit texto, enfin à peu près, je cite, pourquoi c'est Pizarro qui est venu capturer Atahualpa au Pérou, et pas Atahualpa qui est venu capturer Charles Quint en Europe ? Et donc là, je me suis dit, pourquoi pas ? Et c'est ça qui m'a donné l'idée de mon livre. Les éléments de réponse qui donnaient étant que les Européens, les Espagnols avaient trois avantages décisifs, le fer, le cheval et les anticorps, puisque vous savez peut-être que c'est principalement le choc microbien qui a tué 90% des Indiens, en fait, qui ont été confrontés à des germes nouveaux pour lesquels ils n'étaient pas préparés.
Alors, pour que ce renversement soit possible, avant de raconter l'invasion Inca en Espagne, il faut effectivement que les Indiens puissent avoir justement ces trois facteurs, donc le fer, le cheval et les anticorps. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le roman est construit en quatre parties, des parties de taille totalement inégale. Une première partie qui reprend les grandes sagas islandaises, la deuxième qui reprend le journal de Christophe Colomb, la troisième partie qui est la plus longue, qui est vraiment le cœur du récit, qui est cette chronique de l'invasion et du règne d'Atahualpa, plus une quatrième partie qu'on évoquera en conclusion de cette rencontre, qui se passe à Bordeaux et qui est un pastiche de Cervantes, un pastiche, en tout cas un hommage à Cervantes, où on suivra les aventures de Cervantes, d'El Greco, jusqu'à Bordeaux, où ils rencontreront Montaigne. Donc il y a divers régimes d'écriture qui se succèdent. Donc le premier, c'est les sagas islandaises. En fait, vous imaginez tout simplement que les Vikings ne se sont pas arrêtés au Groenland et à la côte nord-est américaine et sont descendus au moins jusqu'à Cuba, si ce n'est plus bas.
Ouais, c'est-à-dire que donc une fois que j'avais mon idée et une fois que j'avais j'avais les informations de Jared Diamond, donc ok, enfin les raisons pour lesquelles les Espagnols avaient vaincu les Indiens, il fallait que si je voulais inverser le cours des choses, il fallait que je comble, enfin que je permette aux Indiens de combler leur handicap. Et donc je me suis dit comment faire. Et il se trouve qu'à l'époque, je lisais des sagas islandaises pour d'autres raisons, enfin parce que enfin. Et donc je me suis souvenu, c'est que les sagas islandaises que je lisais étaient précisément celles qui sont les plus fascinantes parce qu'elles racontent, dès le XIIIe siècle, elles racontent comment vers l'an 1000, une bande de Vikings avait découvert des terres à l'est qu'ils avaient appelées le Vinland et dont on pense que c'était l'Amérique, c'était en gros, des côtes canadiennes du côté de Terre-Neuve. Et donc je me suis dit, la bifurcation là que je veux introduire dans le grand retournement, je vais l'amorcer à ce moment-là. Je vais imaginer que ces Vikings qui avaient fait un aller-retour de quelques années et puis qui avaient été en butte à des Indiens un peu hostiles et qui n'avaient qui s'étaient pas installés durablement au Canada, je vais imaginer que parmi eux, il y en a une poignée, au lieu de revenir au Groenland, a pris son bateau, son drakkar, et puis est descendu vers le sud. Et en longeant les côtes américaines et en rencontrant les Indiens de l'époque, a essaimé, a diffusé le cheval, le fer et leurs microbes d'abord, donc ce qui a eu pour effet immédiat de tuer quasiment tous les Indiens qu'ils ont rencontrés, mais qui leur a aussi permis, leur a donné 500 ans pour ceux qui ne sont pas morts, pour développer un système immunitaire qui soit performant au moment où, deuxième partie, Christophe Colomb débarque, et là c'est ma deuxième partie, Christophe Colomb débarque et ne tombe pas sur des pauvres Taïnos à Haïti et à Cuba qui sont sans défense, mais des Indiens, toujours des Taïnos, mais des Taïnos bien équipés et bien immunisés.
Alors, vous commencez même à instaurer en fait un début de changement aussi culturel, puisque les Indiens d'Amérique du Sud ont récupéré aussi quelques divinités vikings, ouais, puisque le dieu du tonnerre est déjà présent.
Ouais, c'est vrai. Bon, alors j'avoue que c'est un petit peu c'est pas la partie que j'ai exploité le plus, mais c'était un petit peu pour le folklore viking, disons que j'ai laissé perdurer donc chez mes Indiens le culte de Thor, le recours au marteau, voilà, de temps en temps il y a un marteau qui apparaît, et puis il y a aussi quelques runes qui apparaissent ça et là sur des tombes, Christophe Colomb découvre un cimetière avec des pierres tombales, avec des inscriptions runiques qui sont des traces du passage des Vikings. Ouais.
Donc, comme je le disais, la deuxième partie sur Colomb est écrite comme son journal. Donc là, en fait, ce journal, on le connaît.
Ouais.
Est-ce que c'est quelque chose que vous avez utilisé comme un document historique, comme une base justement d'écriture ?
Ah bah ouais. Oui, tout à fait. C'est celui-là, là, c'est celui que je vois là.
Ouais.
Voilà, oui, c'est-à-dire, oui. Ben oui, en fait, c'est-à-dire à partir du moment où, en effet, vous avez tout à fait raison de parler de pastiche, hein, c'est-à-dire que la première partie a été écrite à la manière des sagas islandaises, puisque c'est la continuation des sagas d'Éric le Rouge et des sagas du Vinland, et celle-ci est écrite à la manière du journal de Christophe Colomb, et évidemment, enfin, donc là, on est dans ce qu'on appelle donc l'histoire contrefactuelle ou l'Uchronie. Ce qui est intéressant dans ce genre, c'est c'est l'écart vis-à-vis de la véritable histoire, et c'est les moments de bifurcation, si vous voulez. Donc le moment où quelques Vikings descendent au lieu de revenir vers l'est. Et là, ce qui est intéressant, c'est que, enfin, pour Christophe Colomb, c'était intéressant, c'était le moment où il arrive comme prévu, si vous voulez. C'est-à-dire que, moi, ce qui m'a amusé, c'est que les points de départ sont les mêmes, si vous voulez. Donc Christophe Colomb, il arrive. Et les trois premières pages de mon faux journal sont des extraits de son vrai journal, si vous voulez. C'est-à-dire qu'au début, tout se passe à peu près normalement. Et puis, progressivement, j'introduis des éléments de perturbation qui font que ce qui commence comme une fissure entre mon histoire et la véritable histoire s'élargit progressivement en crevasse. Et les premières pages sont des extraits de son journal, et puis progressivement j'introduis ici ou là des phrases, des éléments de modification tout à fait mineurs qui sont en fait des indices annonciateurs de quelque chose. Je crée une espèce en vue d'un effet d'attente ou de surprise ou des deux, si vous voulez, qui commence par, si je me souviens bien, le premier élément. J'avais un fichier où j'écrivais ces citations, c'était en noir, et moi, quand c'est moi qui intervenais, c'était en rouge. Et au début, toutes mes pages dans ce chapitre-là étaient noires, et puis à un moment, il y a une petite touche de rouge, vraiment un tout petit coup de pinceau, quoi. Et puis ensuite, une phrase ou deux lignes, etc., jusqu'à ce qu'en fait, le rouge contamine toute la narration, mais jamais totalement, puisque jusqu'au bout, en fait, et jusqu'à la fin, où à la fin, on est très, très loin de la véritable histoire, il y avait quand même toujours dans son journal des phrases, des moments que je pouvais réutiliser, même que là, le destin de mon Christophe Colomb et du vrai était devenu totalement différent. Mais bon, donc, bref, le premier indice dont je crois me souvenir, c'est que il explore et il commente les paysages merveilleux, les perroquets, il cherche l'or, etc. Et puis, lui et ses hommes entendent un hennissement qui déchire le ciel. Et donc, le hennissement, c'est le lien avec le lien avec la première partie qui introduisait, justement, qui préparait la perturbation, l'un des éléments de perturbation qui est que, ah bah oui, là, il y a des chevaux, et s'il y a des chevaux, eh ben, militairement, ça a des conséquences tout à fait importante, quoi.
Oui, parce que là, il ne reviendra jamais en Espagne. Vous le faites d'ailleurs. Je ne me rappelle plus s'il meurt, mais en tout cas, il est à moitié fou sur une plage, sur une île.
Bah, il meurt de toute façon.
Il meurt, oui, mais de toute façon, il va finir par...
C'est notre lot à tous.
et par contre, ça, en tout cas, ça, cette tentative d'invasion, de découverte, ne restera pas ni sans conséquences, ni même sans laisser des traces. Puisque 40 ans plus tard, les Indiens se souviendront que des Levantins, ouais, en tout cas des, ouais, étrangers arrivés par la mer, étaient venus et avaient une seule obsession, leur dieu, et la recherche absolue de l'or. Donc 40 ans plus tard, et ce qui est le cœur du récit, c'est justement l'épopée d'Atahualpa, alors, qu'il a aussi écrit dans un autre style littéraire. Ce qui fait aussi tout l'intérêt de ce roman, c'est qu'on va justement passer d'un style à un autre en fonction des époques et des récits. Et là, on est clairement, en fait, dans la chronique de conquête, comme certains conquistadors nous les ont laissés, sur certains conquistadors, surtout des hommes d'église, en fait, qui les accompagnaient. Alors, j'ai amené avec moi deux ouvrages que j'affectionne particulièrement, qui est La relation du voyage, ah ouais, et La rébellion d'Aguirre, qui est un texte incroyable. Donc, Aguirre, qui était un conquistador qui est devenu complètement fou, qui a trahi son roi. Et je vous passe, parce que c'est vraiment un petit bijou, et qui justement devient fou, pervertit ses soldats, et c'est raconté par, a priori, quelqu'un qui l'a suivi durant tout son voyage, qui aurait participé aux exactions, et qui serait quand même écrit une longue lettre de dénonciation au pape et au roi pour dire vraiment, là, c'était pas possible. Et donc vous jouez aussi avec, justement, toute cette littérature-là, en fait, toutes ces traces historiques, pour avoir une langue qui change en fait de chapitre en chapitre. Et il y a aussi, alors ce qui est très intéressant en fait, ce qui joue aussi dans le côté monde renversé, c'est l'utilisation du vocabulaire. C'est-à-dire que c'est la conquête inca racontée par sûrement un inca, on ne sait pas trop d'ailleurs qui est le narrateur.
On ne sait pas trop, mais probablement c'est un compagnon de route. Voilà. C'est-à-dire que, a priori, je voulais, je voulais construire mon livre en miroir inversé, si vous voulez. Et donc, comme l'essentiel de mes sources étaient des compagnons de route de Pizarro ou de Cortés, tout laisse à penser que là, mon narrateur, c'est un compagnon de route d'Atahualpa, mais on ne sait pas trop, quoi.
On sait juste que ça a été écrit pendant le Concile de Trente. Hein. Le Concile de Trente n'est pas terminé. Enfin, en tout cas, c'est ce qui est évoqué. Oui.
Bah, il a duré longtemps.
Il a duré longtemps. Donc voilà, a priori, après 1450, puisque c'est la fin de cette troisième partie. Donc je disais l'utilisation d'un
450.
L'utilisation d'un vocabulaire où tout est renversé, c'est-à-dire que le Nouveau Monde, c'est l'Europe. Les habitants de ce Nouveau Monde, ce sont les Levantins. Les moutons, ce sont des petits lamas blancs. Et vous jouez justement avec une utilisation de vocabulaire, en fait, inca, comme on peut le retrouver dans d'autres récits plutôt orientalistes, puisqu'on est plus habitué à cette littérature-là. Comment jouer justement sur ces termes sans perdre justement le lecteur, pour que ça reste quand même un jeu
C'est une question de dosage. En fait, il n'y a pas vraiment de recette. Disons que moi, je me prends toujours comme mon propre lecteur, mon propre cobaye. C'est-à-dire, si ça m'ennuie, je le fais pas. Si ça m'excite, je le fais. Si ça m'amuse, je le fais. Si je trouve ça un peu lourdingue, j'arrête. Mais alors, évidemment, c'est-à-dire, je suis, Je sais qu'à chaque fois, j'ai toujours tendance à penser que je suis un petit peu quand même un lecteur lambda, même si je suis, les gens pensent parfois que c'est une coquetterie, peut-être lambda plus, mais si vous voulez, en tant que spectateur, en tant que spectateur au cinéma, je ris au même moment que les autres, j'ai des réactions assez standards. Et donc, je me dis que si ça me plaît, ça plaira à d'autres gens. Alors, peut-être 10 personnes ou 10 millions, j'en sais rien. Mais c'est-à-dire qu'en tout cas, je suis ma propre mesure, en fait, si vous voulez. Donc, si je trouve que introduire quelques termes inca, ça donne une touche de couleur locale, comme disait Chateaubriand, ou disons de folklore, d'exotisme, et puis que ça rappelle si ça signale, si ça rappelle au lecteur qu'on est dans un monde renversé, c'est-à-dire que les conquistadors, appelaient véritablement les lamas des espèces de grands moutons. La logique veut que les incas appellent les moutons des petits lamas, si vous voulez, grands moutons. Ensuite, il y avait la dimension religieuse, si vous voulez. Bon, c'est vrai que ça m'a... j'imaginais... L'un des intérêts de mon dispositif, des incas qui découvrent notre monde, c'est qu'on se retrouvait dans ce que Kaiwa appelle la révolution sociologique, si vous voulez, c'est-à-dire cette situation où on porte sur notre propre société un regard extérieur. Ce qu'a fait Montaigne dans ses chapitres des essais « Les cannibales, des coches », où il commente la visite d'Indiens, alors là, qui étaient des Indiens du Brésil, qui débarquent à Rouen, invités par le roi, et qui comprennent pas tout un certain nombre de choses qui semblaient évidentes à la société européenne française de l'époque, à savoir comment ça se fait que vous avez un roi qui a un enfant et qui est le chef de votre royaume. Comment ça se fait qu'il y a des riches et des pauvres dans les rues et que les pauvres sautent pas à la gorge des riches. Bon, dispositif repris par Montesquieu dans les Lettres persanes. Et donc moi évidemment, mais ce qui était à la base pour moi conçu comme un jeu de stratégie en fait. Mon livre, je l'ai écrit en me disant on est 200 incas débarquent en Europe. Comment ils font? Comment ils font donc pour OK, là on est dans le jeu de stratégie, mais ensuite je ne pouvais pas faire l'économie de qu'est-ce qu'il voit. Et d'ailleurs, j'avais pas l'intention de m'en priver, mais c'était aussi l'occasion, justement, de jouer à ce jeu de la révolution sociologique et de me mettre dans la peau de quelqu'un qui débarque de Mars ou du Pérou. Finalement, ça ne change pas grand-chose pour quelqu'un qui verrait pour la première fois le Christ en croix. Bon, et qui essaierait de comprendre les querelles religieuses du XVIe, c'était l'occasion d'avoir évidemment de pratiquer ce jeu de la révolution sociologique, si vous voulez. Et d'où, c'est vrai que je me suis amusé enfin, j'étais assez content de ma trouvaille. Donc, dans les yeux des Incas, le Christ, c'est le dieu cloué. Parce qu'il voit tout le temps, partout, le mec crucifié avec des clous dans les mains. Bon, c'est vrai que c'est pas anodin, nous, on a l'habitude maintenant, mais c'est quand même quelque chose d'étrange, quoi.
Donc, les Indiens, Atahualpa et donc 200 Incas débarquent au Portugal. Alors, ce qui est déjà intéressant, et c'est encore dans cette idée de renversement historique, c'est que Pizarro et Cortés étaient aussi arrivés finalement très peu nombreux pour envahir justement ces pays-là. Et ils arrivent au Portugal en 1531, juste après un tremblement de terre, qui est aussi un fait historique avéré.
Ouais. Tout le monde me parle à chaque fois que donc on commande cet épisode dans mon livre. Tout le monde me parle de Voltaire en disant ah bah oui il a refait le... Et puis du coup comme Voltaire, Candide avait aussi ce regard naïf sur une société dont il ignorait tout. Tout le monde compare là cette partie à Voltaire, mais en fait il se trouve que c'est une coïncidence que j'ai utilisée le jour précisément où Pizarro a mis le pied au Pérou. Au même moment, à Lisbonne, il y a eu un tremblement de terre dont on pense qu'il a été encore plus ravageur que celui qu'on connaît, dont parle Voltaire de 1755, je crois. Comme je voulais que Atahualpa fasse le trajet inverse de Christophe Colomb, et comme Christophe Colomb, et la première fois, son premier voyage, il rentre, il arrive à Lisbonne, je me suis dit, c'est pas de ma faute, mais c'est une coïncidence dont je ne peux pas profiter. Et dans les faits, pour le coup, mes Incas débarquent donc au moment de ce tremblement de terre. Et donc, c'est un premier coup de chance qui va les servir, puisqu'ils arrivent à un moment où les gens ne sont pas en capacité de les recevoir. Et où la société est complètement désorganisée, inquiète et affolée, et donc comprennent rien à ce qui leur arrive, et du coup ne comprennent pas qui sont ces gens. Voilà. Donc en fait, c'est tout à fait logique qu'on pense à Voltaire forcément à ce moment-là, mais c'est vrai que tout le monde me parle de Candide à ce moment-là. Il y a quand même une petite différence. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'ils viennent du Pérou ou de Mars. C'est pareil. En fait, c'est pas tout à fait vrai parce que Atahualpa n'est pas tout à fait dans la position de Candide. Candide, il est vierge, si vous voulez. C'est-à-dire, il sait rien sur rien. Atahualpa, il arrive, il n'est pas vierge du tout. Il arrive avec sa civilisation, ses connaissances d'Inca, son système politique, son système économique, etc., etc. Et donc, ça change par rapport à... C'est pas un naïf, Atahualpa. C'est quelqu'un qui a ses propres croyances et qui est donc à un regard extérieur, mais pas vierge.
Alors, vous avez tenu à ce que tous les personnages historiques évoqués, d'abord, aient existé, aient des morts à peu près similaires, sauf pour certains. Mais on va dire au début, en tout cas, de l'intrigue, les généraux espagnols qui vont mourir à Tolède, effectivement, sont morts à peu près dans ce moment-là, dans d'autres guerres. Tous les personnages préservent leur essence. Et vous invoquez notamment un personnage qui est Laurent de Médicis, Lorenzo, ouais. Qui, lui, effectivement, ne pouvant pas trahir finalement son frère, trahira sûrement quelqu'un d'autre.
Son cousin, ouais. Son cousin, pardon. Non, c'est-à-dire, enfin, les destins sont pas les mêmes, si vous voulez, mais comment dire ? En fait, moi, j'aime bien me fonder sur l'histoire et j'aime pas bâtir sur du sable. J'aime pas, comment dire ? Enfin, c'est à la fois. L'Uchronie, l'histoire contrefactuelle, est une fantaisie, mais une fantaisie quand même qui, pour qu'elle soit valable ou pour qu'elle tienne debout, a intérêt à avoir des bases solides. Et donc, ça veut dire qu'elle doit s'inscrire, enfin, dans sa démarcation même avec l'histoire d'origine, elle doit, si vous voulez créer un effet miroir, il faut avoir une bonne connaissance de ce que vous essayez de refléter, si vous voulez, une image du 16e qui est assez précise. Et donc, si vous voulez, c'est-à-dire le plaisir quand vous connaissez un personnage historique, le plaisir que vous avez à le rencontrer dans une fiction, c'est que vous le reconnaissez. Il y a un plaisir de la reconnaissance. Et donc, un personnage comme Lorenzo Accio dans Musset, donc Lorenzo Accio un personnage historique, mais dont Musset a fait cette pièce-là, qui est connu pour avoir tué son cousin Alexandre, qui était considéré comme le tyran de Florence à l'époque. Je voyais que les dates coïncidaient parfaitement. Au début, je voulais qu'il fasse une apparition, et puis finalement, il a pris plus d'importance. Et parce que c'est vrai que c'était donc on le connaît comme régicide. Or, dans mon histoire, donc moi, j'essayais toujours de tirer les conséquences logiques des modifications que j'avais introduites et comme cette espèce de jeu de domino, tel truc à partir des Vikings, tel truc en enchaînant un autre. À partir du moment où Atahualpa avait pris la place de Charles Quint, Atahualpa, il prend la place de Charles Quint, en gros, en adoptant la technique de Cortés, c'est-à-dire en s'alliant à tous les ennemis de Charles Quint, les ennemis de l'intérieur, les ennemis de l'extérieur. Et donc, les ennemis de Charles Quint deviennent ses amis, et inversement. Donc, une fois qu'Atahualpa a pris la place de Charles Quint, il arrête de soutenir Alexandre de Médicis, qui était donc le tyran en place à Florence, qui était là, mis là, avec l'aval de Charles Quint. Et donc, il le renvoie. Mais du coup, Laurent de Médicis, Lorenzo Accio, Lorenzino, n'avait plus personne, n'avait plus à tuer son cousin Alexandre. Mais je lui ai gardé, en effet, sa fonction de régicide, en me posant la question, qui est-ce qui va tuer, du coup? Mais, donc, il a gardé je l'ai réassigné, en fait. C'est-à-dire, son destin historique a été réassigné, mais sa fonction de meurtrier, je l'ai gardée, en effet. Ouais, ça m'a amusé de faire ça. Enfin, ça m'a amusé en même temps. Enfin, c'est-à-dire, j'allais pas faire de. Enfin, il y avait pas de raison. Enfin, ce serait décevant qu'on. J'allais pas faire de François Ier un moine, par exemple, ou de. Enfin, vous voyez, les personnages historiques n'avaient pas de raison qu'ils ne gardent pas leurs caractéristiques.
Voilà. Donc, les artistes restent des artistes. Les peintres de la Renaissance sont toujours. À la différence.
Mais en même temps, par exemple, ça m'a amusé de faire de Pedro Pizarro, qui était le neveu de Francisco Pizarro, qui avait participé à la conquête, au gré des circonstances, d'en faire un allié des Incas, en fait. Alors même qu'il avait participé à leur destruction dans la vraie vie. Donc en fait, c'était les circonstances quand même qui dictaient le nouveau rôle, si vous voulez, de mes personnages, mais toujours. Voilà, c'est-à-dire soit pour c'était toujours par rapport à leur histoire réelle de départ. Quoi.
Alors, on sent qu'il y a un travail de documentation historique qui est assez conséquent pour écrire ce livre-là, mais il n'y a pas que de la documentation historique. Il y a aussi beaucoup de références à la littérature. Donc, il y a un passage effectivement des cannibales de montagne qui est remis dans la bouche de l'Inca qui découvre la société. Il y a aussi des passages à quelques textes en fait de littérature espagnole du 16e siècle, notamment des phrases citées de la vie de Lazarillo de Tormes.
Oui, absolument.
En quoi justement tout cet imaginaire là en fait construit et nourrit un récit et apporte de la finalement une certaine vérité,
si vous voulez, c'est à dire, moi j'avais fait pareil pour la 7e fonction du langage. Si vous voulez, je peux pas redonner mieux vie à des gens qui ont existé que. En leur donnant la parole avec leurs propres mots. Donc, quand il s'agissait de faire parler Roland Barthes, Michel Foucault, etc., j'étais allé chercher dans leurs œuvres pour extraire des citations qui puissent coïncider avec les situations dans lesquelles je les mettais. Je procédais à des réagencements, mais à partir de leurs propres mots. Et là, bon, d'une situation qui appelait. Au roman picaresque, si vous voulez, c'est-à-dire un roman d'aventure au 16e siècle avec 200 gars qui sont perdus dans un monde qu'ils connaissent pas et qui avancent, qui sont littéralement sur la route. Bon, c'est un roman picaresque. Et donc, un roman picaresque au 16e siècle, le meilleur moyen de donner cette couleur picaresque, c'était d'aller chercher à la source. À la source, il y a, entre autres, c'est un des deux ou trois fondateurs du roman picaresque, c'était ce Lazarillo de Tormes, qui est un roman picaresque où c'est l'histoire d'un jeune homme à qui il arrive des tas d'aventures et surtout de mésaventures sur les routes d'Espagne. Et à un moment, il y a toute une séquence où Atahualpa et ses hommes font le trajet exactement inverse de Lazarillo de Tormes, qui lui va de Salamanque à Tolède, je crois. Dans mon livre, c'est le contraire. En fait, lui, Atahualpa, il arrive à Tolède et il rejoint Salamanque. Et sur la route, je me suis dit que pour créer un effet de réalisme 16e, le mieux, c'était qu'il soit confronté à des épisodes qui étaient racontés par Lazarillo de Tormes. C'est-à-dire que, en fait, la découverte du 16e siècle européen par Atahualpa était aussi à travers ce que lui considère comme, ce que lui vit comme des réalités, mais à travers la littérature de l'époque.
Alors, je tiens quand même à vous rassurer, vous n'avez pas besoin d'avoir fait une thèse d'histoire sur le 16e siècle pour apprécier la lecture de cet ouvrage. Et j'ai cru comprendre qu'il y avait une autre référence littéraire qui parsemait aussi tout le récit, c'est le Salammbô de Flaubert.
Alors c'est vrai. C'est un roman, c'est une situation de roman picaresque, c'est quand même une grande épopée, j'avais envie de faire une grande épopée, et j'ai toujours, ça fait longtemps que Salammbô est dans la liste de mes 10 livres préférés, et ça traduit un goût pour l'épique, pour le registre épique, qui a aussi, qui est aussi à la source de l'écriture de ce livre, parce que je crois que j'ai voulu faire, moi, mon Salammbô avec ce livre. Et donc, il y a des traces de ça dans le livre. Les premiers chapitres de la partie sur Atahualpa, le premier chapitre qui raconte quelque chose qui est raconté dans des chroniques historiques, je l'ai écrit en toute connaissance de cause, d'ailleurs, à la manière de Salammbô, j'avais ce modèle-là comme référent, j'avais cette espèce d'envie, de fantasme, de défi, de faire un truc à la Salammbô. Alors, sauf que ensuite les registres s'entrechoquent, donc de temps en temps ça va devenir plus burlesque, etc., etc. Mais il y a des passages, les passages les plus épiques. Enfin, en tout cas, tout le début, c'est à la manière de Salammbô. Bon, voilà, parce que j'avais admiration, si vous voulez, par admiration, et puis parce que je trouvais que ça collait, quoi. C'est-à-dire que le début, on est encore chez les Incas, on est dans donc cette période un peu précolombienne dont on ne sait que des trucs dont on a eu que des récits qui ressemblent souvent à des récits mythologiques, mais qui sont à la fois des récits historiques. Je trouvais que en plus le registre de Salammbô était pas mal, parce que Salammbô, c'est un écrivain du 19e qui raconte des histoires de Carthage à l'époque de l'Empire romain. Il y avait une ambiance, une atmosphère dont j'avais envie à certains moments. Mais c'est vrai qu'autant les autres parties, vraiment, la première partie, c'est pastiche de saga islandaise, la deuxième partie, c'est pastiche du journal de Christophe Colomb, et la dernière, c'est pastiche de Don Quichotte. Celle-là, elle est plus mélangée, en fait. Elle est plus mélangée. Il y a du picaresque, il y a de l'épique, donc avec ce Salammbô comme modèle. Il y a aussi du western, mais le western étant à la fois de l'épique et du picaresque de toute façon. La scène centrale de mon livre étant une véritable scène de western inspirée de la façon dont Pizarro a capturé Atahualpa au Pérou, en lui tendant un guet-apens, en lui donnant rendez-vous sur une place. Enfin, vraiment, on est dans une situation de western complète, avec et jusqu'au bout, parce que ça, c'est la véritable histoire, hein. Atahualpa a planqué ses hommes. Pizarro a planqué ses hommes. Atahualpa arrive avec toute son armée et il commence à échanger avec Pizarro et puis ses quelques hommes qui sont là. Il y a un prêtre qui donne une Bible à Atahualpa. Atahualpa regarde ce qu'il comprend pas, il ne sait pas ce que c'est qu'un livre. Donc le prêtre doit lui dire, écoute la parole de Dieu. Atahualpa met le livre à son oreille, dit j'entends rien, et jette le livre. Et là, ce qui est assez amusant, c'est que d'après les récits qu'on a, c'est-à-dire que ça pouvait pas être exactement un signal prévu à l'avance, puisqu'on ne savait pas qu'Atahualpa jetterait le livre, mais au moment où il jette le livre, là, Pizarro crie Santiago et c'est le début de l'attaque. Et là, l'attaque commence. Bon, c'est une scène de western complètement incroyable, quoi, incroyable. Et donc, cette scène-là, je voulais la situation inverse. Et donc, voilà, donc j'ai mis beaucoup de temps à trouver l'emplacement où ça devait se passer en Espagne. Mais en tout cas, du début à la fin, je l'ai conçu comme une scène de western avec la poussière, le soleil, il est midi, etc. etc. Et j'ai voulu la raconter comme un western.
Alors, j'aimerais qu'on revienne sur la partie plus historique, c'est-à-dire la réussite en fait de la conquête de Pizarro chez les Incas tient au fait qu'il arrive dans un empire qui est non pas sur le déclin mais en guerre. C'est ce que Atahualpa dans votre livre retrouve aussi dans une Europe qui est, alors c'est l'Europe de l'Inquisition en Espagne, des guerres entre la France, l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie, qui est un mélange justement de
tout un vaste champ de bataille,
ouais. Et le nord de l'Europe qui commence à voir arriver à la fois les luthériens et qui vient de se remettre à peine des révoltes menées par Arnaud Munzer à Strasbourg et dans tout le sud-ouest de l'Allemagne. Comment justement intégrer toutes ces informations? Enfin, l'histoire de l'Europe est vaste, elle est particulièrement complexe à ce moment-là. Pour justement construire un récit qui se tienne, qui soit aussi toujours dans cette idée de renversement historique, donc de remettre effectivement des scènes qui ont été vécues au Pérou par les conquistadors et retourner justement en Europe. Comment construire ce récit pour que ça tienne et que ça reste crédible, parce que ouais. La difficulté du chronier est là.
Ouais, absolument. Alors, ben donc, j'avais plusieurs lignes de repères, si vous voulez. D'abord, c'est vrai que enfin, j'aimais bien ce présupposé de départ qui était est-ce que c'est possible de conquérir un empire à 200 ? A priori, non. Sauf que ça a été fait par deux hommes, Cortés et Pizarro. Donc oui, c'est possible. Et donc à partir de là, donc dans mon optique de jeu de stratégie, je me disais, bon, bah, comment on fait, on regarde comment on fait Cortés et Pizarro, chacun ayant des techniques un peu différentes. Mais en gros, Cortés, c'était s'allier avec les ennemis de l'Empire aztèque. Bon, est-ce que c'est possible en Europe? Est-ce que Charles Quint a des ennemis? Oui, plein. Alors ensuite, il fallait les identifier. Bon, bah, à l'intérieur, il y avait les Juifs qu'il avait renvoyés en 1492, les Morisques. Les musulmans qui avaient à peu près qui connaissaient à peu près, qui étaient aussi maltraités, les juifs donc renvoyés ou ceux qui étaient restés qui avaient été obligés de se convertir en Allemagne, les paysans révoltés qui crevaient de faim, et puis à l'extérieur, François Ier, etc., etc. Bon, voilà. Donc, pour et puis, ça c'était la technique de Cortés. Pizarro, lui, il avait bénéficié, donc il était arrivé dans un empire en guerre civile. Est-ce que l'empire de Charles Quint n'était pas en guerre civile, mais quand même, disons, toutes ces guerres de religion, les guerres avec Charles Quint, etc., c'était l'Europe, si vous voulez, était une espèce de vaste terrain de guerre civile, si on prend l'Europe comme un bloc. Donc, à chaque fois, je me disais, est-ce que les opportunités dont ont bénéficié Cortés et Pizarro, est-ce que Atahualpa peut en bénéficier? Et à chaque fois, la réponse était oui. Jusque dans des trucs dont je me suis rendu compte progressivement, mais qui étaient vraiment formidables pour moi, les dimensions pas simplement militaires ou diplomatiques, mais même symboliques et idéologiques. Et le parallèle le plus génial que j'ai trouvé, c'était le fait que Cortés ait bénéficié du fait que des croyances, si vous voulez, des Aztèques qui attendaient le retour du serpent à plumes, leur dieu Quetzalcoatl, qui était censé être parti sur l'Atlantique et dont ils attendaient le retour. Et quand ils ont vu Cortés arriver, ils se sont dit, bah, c'est lui. Et donc, évidemment, c'était un avantage psychologique considérable d'être pris pour un dieu par ceux qu'on veut conquérir. Et je me suis, au début, je me suis dit, bon, ben voilà, Atahualpa, il va devoir faire sans ça. Sauf qu'en fait, non. Atahualpa pouvait bénéficier exactement de la même chose parce que qu'est-ce qui se passe en Europe au moment où lui, fils du soleil qui arrive avec sa religion du soleil, débarque, il se passe l'héliocentrisme de Copernic. Copernic est en train d'expliquer à toute l'Europe que c'est pas la Terre, mais le soleil qui est au centre de l'univers. Bon, avantage psychologique absolument génial, tout à fait équivalent à celui de Cortés. Bon, voilà. Et donc, ce genre de choses, c'était un jeu de, ben, si vous voulez, de plus j'approfondissais ma connaissance de la situation en Europe au XVIe siècle, plus je trouvais des éléments comme ça qui pouvaient être exploités par mes Incas. Mais donc, pour répondre un peu plus concrètement, enfin, au niveau technique et pratique à votre question, en fait, je faisais quand même beaucoup par zone géographique. C'est-à-dire que, bon, bah, ils arrivent à Lisbonne. Alors, Lisbonne, il y a ce tremblement de terre, OK. Ensuite, ils débarquent en Espagne. Qu'est-ce qui se passe en Espagne à l'époque? Bon, ce qui se passe en Espagne à l'époque, c'est l'Inquisition. Alors là, je me documentais sur l'Inquisition et je voyais, comment dire, quelles ressources romanesques pouvaient m'apporter cet état des lieux en Espagne. Et puis ensuite, donc, quand il passait en Allemagne, bah là, j'ai vu que vous aviez apporté le livre de Éric Vuillard, oui. Bah là, l'Allemagne 1531 se remettait de la guerre des paysans, les paysans révoltés, écrasés par les princes allemands quelques années plus tôt, bon, bah, des années potentielles, et puis des alliés potentiels. Comment est-ce que j'allais pouvoir... bon, mon idée, c'était il va s'allier avec les... Enfin, comment dire, l'arrivée des Incas va être pour les paysans une espèce de nouvel espoir, d'opportunité de se dire, tiens, quelqu'un qui combat ceux qui nous oppriment, et donc la possibilité d'une alliance entre les Incas et les paysans. Alliance renforcée en plus par quelque chose que j'ai découvert tout à fait incidemment, que les paysans avaient eu pendant la guerre des paysans pour emblème un drapeau arc-en-ciel, et que le drapeau arc-en-ciel est encore aujourd'hui chez les Aymara, qui est donc un peuple qui fournissait l'essentiel de la population inca, et toujours aussi, les Aymara ont un drapeau arc-en-ciel. Donc je trouvais ça, chouette comme rencontre symbolique, si vous voulez. Et donc ensuite, je me disais, voilà, donc ok, Espagne, Allemagne, alors en France, qu'est-ce qui se passe? En Italie, qu'est-ce qui se passe? Et ainsi de suite, quoi. Et c'est comme ça que l'Italie, je tombe sur Lorenzo Accio, je me dis, ah bah oui, tiens, il se passe ça à Florence en ce moment, comment est-ce que je peux l'intégrer dans mon histoire? Et ainsi de suite, quoi. Ou donc l'Angleterre, par exemple. L'Angleterre aussi, c'était... C'est-à-dire, bon, vous devez commencer à comprendre la logique du truc, c'est-à-dire, comment est-ce que... chaque situation historique est modifiée par cet élément perturbateur. Alors je me disais, par exemple, en Angleterre, il y a Henri VIII. Henri VIII, donc, c'est l'époque où il va se convertir, enfin, il va créer l'anglicanisme à partir de cette espèce de... Enfin bref, il va quitter l'Église catholique pour pouvoir divorcer, en gros. Hein. Prendre une femme, et puis deux, puis trois, et ainsi de suite. Et je me dis, bah là, en quoi est-ce que Henri VIII pourrait être intéressé par les Incas? Les Incas, il se trouve que la noblesse inca avait le droit à la polygamie. Alors je me dis, bah, Henri VIII, la conséquence logique, c'est que Henri VIII va se convertir à la religion du soleil. Ça paraît logique. Donc voilà, et ainsi de suite.
Alors, le XVIe siècle, c'est aussi l'essor du capitalisme et de la mondialisation, des échanges, des traités de libre-échange, sujet que vous abordez d'ailleurs dans votre livre, et que vous mettez aussi en opposition, où vous imaginez en fait les Incas arrivant en Europe, créer d'abord une sorte d'édit de Nantes, un proto-édit de Nantes sur la liberté de culte et de croyance, et surtout sur l'instauration d'une société proto-socialiste, d'une certaine manière, beaucoup plus égalitaire et sur lesquelles les revendications des paysans allemands et strasbourgeois, à savoir le droit de bénéficier de ses propres récoltes, de ne pas payer d'impôts, de ne pas payer de droits d'impôts, de taxes diverses, sera accordé justement par Atahualpa.
Alors pas tout à fait égalitaire en fait, mais disons redistributive. Il se trouve que ça, c'est pareil, je l'ai découvert en lisant tout ce que je pouvais sur les Incas. Les Incas avaient une société quand même très hiérarchisée et l'Inca était quand même l'empereur était un autocrate dont on pouvait pas contester le pouvoir et qu'on avait même pas le droit de regarder dans les yeux. Mais ils avaient cette espèce de système assez original où la terre n'appartenait à personne si ce n'est à l'Inca, mais l'Inca la distribuait et la redistribuait selon une forme d'économie planifiée, si vous voulez, en fonction des besoins de telle ou telle communauté, avec à charge pour ces communautés de s'occuper des veuves, des orphelins, des vieillards, des malades, etc., etc. Et puis, en cas de famine, donc les communautés ne payaient pas d'impôts, mais devaient des corvées, en gros, devaient du travail, c'est-à-dire quelques mois dans l'année, devait cultiver, alors l'Inca gardait quand même pour lui des terres, devait cultiver ces terres, donc c'est-à-dire travailler pour tout ce qu'il cultivait sur les terres qui leur étaient attribuées, il le gardait, il n'y avait pas d'impôt, mais par contre, il faisait fructifier les terres de l'Inca. Et en échange, en cas de disette, l'Inca, sur ses propres récoltes, créer des greniers qui mettaient à la disposition de son peuple en cas de famine, de maladie, etc., etc. Donc c'était quand même, enfin il y avait, c'était tout à fait révolutionnaire pour l'époque, pour nous ce qu'on connaît. C'était quand même une forme d'espèce de proto-sécurité sociale. Enfin c'était très étonnant et c'est vrai que c'était assez, je trouve à la fois amusant et à la fois stimulant intellectuellement d'imaginer le choc de ce système avec justement ce moment-là en Europe qui est celui du capitalisme naissant, disons le capitalisme qu'on peut dater peut-être du 15e à Florence, si vous voulez. Mais là, c'est vrai que les banquiers allemands et puis les banquiers d'Anvers, de Gênes, bon, c'est vraiment le moment où le moment, c'est bien simple, c'est Fugger. C'est quand même d'une actualité criante. Le banquier Fugger, le banquier allemand qui passait pour l'homme le plus riche d'Europe, a décidé de qui serait l'empereur du Saint-Empire romain germanique, parce que ce titre était attribué par élection. Il y avait des grands électeurs qui votaient, et François Ier était candidat, Charles Quint était candidat. Et en gros, il y avait 7 grands électeurs et il fallait les arroser, en gros. Et donc, pour ça, il fallait beaucoup d'argent. Et Fugger a décidé de prêter l'argent à Charles Quint plus qu'à et pas à François Ier. C'est lui, en fait. Et donc, enfin voilà, ça sonne très très moderne, quand même. C'est-à-dire, c'est un banquier qui a décidé de l'élection d'un empereur. Alors vous me direz, nous maintenant on vote directement pour le banquier, mais bon, c'est un autre problème. Mais voilà. Et donc disons, cette idée là que, enfin, cette histoire de système un peu, disons totalement alternatif quand même, hein, que les Incas avaient. C'est vrai que ça me plonge dans des abîmes de perplexité, parce que c'est marrant de se dire, c'est un slogan altermondialiste, vous savez, un autre monde est possible. Bon, moi, en travaillant pour mon livre, je me suis dit, un autre monde était possible, en fait, une autre mondialisation était possible. Alors, je sais pas si, mais donc c'est, oui, je trouvais ça intéressant de spéculer, si vous voulez, parce que, comment dire, intellectuellement, je trouvais ça stimulant, mais bon, si on revient, mon livre, c'est un roman, hein, c'est quand même un roman d'aventure avant toute chose. Et là, au niveau, comment dire, en termes d'économie romanesque, ou si vous voulez, le romancier qui était en moi trouvait ça d'autant plus intéressant que ce système-là pouvait rencontrer les revendications des paysans exploités en Allemagne et du coup favoriser l'alliance entre les deux, entre l'Inca qui n'était pas du tout un bolchevique, hein, quand même, enfin, je veux dire, c'était quand même, mais pour des raisons tactiques et politiques, là, avait tout intérêt à satisfaire les revendications des paysans allemands, d'autant plus que, lui, de toute façon, ça faisait plus ou moins, ça collait plus ou moins avec son système qui fonctionnait très bien chez les Incas. Donc, vous voyez, cette espèce de jeu de mécano politico-historique, bon, c'est entre autres ça qui m'amusait, ouais.
Alors, sur la dernière partie de l'ouvrage, hein, donc qui est une parodie, en tout cas
un pastiche, hein, une parodie, il y a une intention de caricature un peu, mais là, c'est
un pastiche de Cervantes. Vous imaginez le périple de Cervantes jusqu'en France, jusqu'à Bordeaux, en particulier, où il rencontrera Montaigne, et vous faites de Bordeaux la capitale de la France à cette période-là, fin du 16e, et vous faites aussi d'un Cervantes qui n'écrira pas Don Quichotte.
Alors, on ne sait pas s'il écrira pas Don Quichotte. Enfin, je ne veux pas trop spoiler, mais disons, ce ne sera pas le même, si vous voulez. Ce ne sera pas le même Don Quichotte, mais il écrira peut-être un Don Quichotte ailleurs, quoi, qui se passera ailleurs, si vous voulez. Mais donc, quelle est votre question?
Ma question, c'est pourquoi lui faire rencontrer Montaigne? Montaigne était déjà cité dans une des premières parties.
Moi, en fait, j'étais, je fonctionnais comme mes personnages, si vous voulez. Donc, je fonctionnais par opportunité, donc... J'avais reconfiguré toute l'Europe. Et donc, cette Europe-là qui était tournée vers le... Bon, enfin, je vous passe les détails, mais enfin, l'Europe telle que je l'ai reconfigurée elle est tournée vers d'où viennent les Incas, c'est-à-dire l'Amérique. Et donc, du coup, tout se déplace vers l'ouest, si vous voulez. C'est-à-dire que la France, notamment, bon, je ne vous raconte pas, mais enfin, la France, là, est tournée vers l'Atlantique. Donc, logiquement, le point central de la France... c'était à peu près logique que ça tombe sur Bordeaux. Ça pouvait être Brest, c'est-à-dire Bordeaux me semblait le choix le plus logique. Et j'avais envie, donc, comment dire, dans cette dernière partie, il y a un léger malentendu en fait sur mon livre. Les gens prennent trop mon livre comme une espèce de conte philosophique. On me reproche d'avoir voulu montrer que oui, en fait, les Incas étaient gentils, les Européens méchants, ou alors parfois, non, d'avoir fait finalement des Incas, des conquistadors qui valent pas mieux que les Européens, etc., etc. Moi, j'étais pas du tout dans cette logique démonstrative de choc des civilisations, choc de fait, parce que là, oui, il y a une rencontre, si vous voulez, et il y a la guerre, mais pas du tout dans ce qui nourrit les débats sans fin aujourd'hui, les trucs identitaires sur l'essence des peuples. Moi, je ne crois pas, d'ailleurs, mon livre le prouve, je ne crois pas qu'il y avait une espèce de fatalité historique de génie européen, pour le meilleur et pour le pire, qui ait fait que ça devait être des Européens et personne d'autre qui partent à la conquête du monde. Non, ça aurait pu se passer autrement, je pense. Bon, voilà. Attendez, j'ai perdu le fil là. Pourquoi je vous disais tout ça? Je sais plus, mais oui, je sais. Oui, c'est-à-dire, les gens ont l'impression, parfois même, c'est pas une critique, mais c'est les gens ont tendance à penser que j'ai voulu montrer une alternative, aux guerres de religion, une Europe qui s'entretue. J'aurais voulu montrer, une espèce de contre-exemple. Les Incas arrivent et puis ils font un espèce d'édit de Nantes, ils pacifient les guerres de religion, etc., etc., et ils pacifient toute l'Europe. Non, d'abord, l'édit de Nantes, il a eu lieu, si vous voulez, donc là, ça devient l'édit de Séville, mais les monarques européens, eux aussi, ils cherchaient la paix religieuse, parce que les guerres de religion, c'est du désordre, et aucun dirigeant n'aime le désordre. Bon. Voilà, c'est-à-dire, je voulais pas qu'à la fin du livre, on se dise, super, les Incas ont gagné et tout est résolu. Donc, j'ai fait cette espèce d'épilogue qui est quand même un gros épilogue, en fait, c'est vraiment une dernière partie, pour montrer que 25 ans plus tard, il y a encore, tout n'est pas résolu, il y a encore des guerres, simplement, c'est reconfiguré. Là, les chrétiens sont alliés avec les Ottomans contre les... Bon, puisqu'on en a... Je vous dis pas avec qui les Incas sont alliés, mais... la France est au cœur du truc. Et je me suis dit, 25 ans plus tard, ça tombe autour de 1571. C'est la bataille de Lépante. La bataille de Lépante, c'est un épisode qui m'a toujours... qui me fascine depuis un certain nombre d'années, puisque déjà, j'en parlais dans la 7e fonction du langage. Et la bataille de Lépante me fascine d'autant plus qu'il y avait Cervantes. Cervantes y a participé. C'est là qu'il a perdu l'usage de sa main gauche. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé. Après, il avait ce surnom de Manchot de Lépante. Bref, donc j'avais envie de partir de là, et donc je me suis dit, autant raconter les aventures de Cervantes à la manière de Don Quichotte, c'est-à-dire là d'opérer un renversement du renversement, c'est-à-dire que là ça faisait 300 pages que on suivait les aventures des Incas et qu'on découvrait l'Europe à travers les Incas, et là dans une Europe incaïsée, indianisée, je ne sais pas comment dire, là on rebascule et on se retrouve du côté d'un Européen qui est Cervantes, ballotté dans cette Europe modifiée, mais donc à qui il arrive certaines aventures qui lui sont arrivées dans la réalité, mais modifiées quand même par tout ce que j'ai raconté auparavant. Et donc, bref, ces aventures, immanquablement pour moi, pour ce que j'avais en tête, le mènent à Bordeaux. Bon. Et je me dis, tant qu'à faire, s'il est à Bordeaux, à Bordeaux dans les années 1570-1575, autant quand même me faire plaisir et faire en sorte qu'il rencontre Montaigne. Quoi.
Et enfin, ma dernière question, est-ce que ce roman va être publié au Pérou?
Ouais. Les Espagnols ont acheté les droits et donc les Espagnols s'occupent de la diffusion... en Amérique latine, et là, ils sont comme des fous, là. J'ai vu le mail, quand ils ont acheté les droits, ils étaient très, très enthousiastes à l'idée de... à l'idée de traduire et de publier le livre. Donc j'imagine que oui, je vais être invité au Salon du Livre de Lima.
Merci beaucoup, Laurent Binet.
Merci à vous. Merci.